Parfois, une histoire arrive entière, terminée. En général, cependant, elles me viennent en deux parties. D'abord la tasse, puis l'anse. Et parce que l'anse peut ne pas se pointer avant des semaines, des mois, voire des années, j'ai une petite boîte dans un coin de mon esprit remplie de tasses inachevées, chacune d'elles protégée par cet emballage mental unique qu'on appelle la mémoire. Quelle que soit la beauté de la tasse, on ne peut pas partir à la recherche d'une anse. On doit attendre qu'elle apparaisse. Je me rends compte que la métaphore est plutôt minable, mais quand on parle de ce procédé qu'on nomme écriture créative, elles le sont quasiment toutes. J'ai écrit de la fiction toute ma vie, et pourtant, je n'ai toujours pas pleinement saisi le mécanisme de la chose. Bien sûr, je ne sais pas non plus comment fonctionne mon foie, mais tant qu'il continue de faire son boulot, moi, ça me va. Il y a à peu près 6 ans, j'ai assisté à une presque collision à un carrefour encombré de Sarasota. Un cow-boy au volant de son Bigfoot, un 4x4 avec d'énormes roues, a essayé de se caler dans une voie de gauche où un autre Bigfoot était déjà engagé. Le type qui se faisait piquer sa place a klaxonné, il y a eu un crissement de frein prévisible et les deux mastodontes pompeurs d'essence se sont arrêtés à quelques centimètres l'un de l'autre. Le gars dans la voie de gauche a baissé sa vitre et brandi son doigt en direction du ciel bleu de Floride dans un salut aussi américain que le baseball. Celui qui avait failli lui rentrer dedans lui a retourné le compliment en l'accompagnant d'un martèlement de poitrine style Tarzan, signifiant vraisemblablement « Tu veux qu'on s'explique ?» Puis le feu est passé au vert. Les autres automobilistes ont commencé à klaxonner et les deux ont poursuivi leur route sans en venir aux mains. Suite à cet incident, je me suis demandé ce qui aurait pu se passer si les deux conducteurs étaient descendus de leur véhicule et avaient commencé à se castagner en plein milieu de la Tamiami Trail. Une idée tout à fait plausible. L'agressivité au volant est chose banale. Malheureusement, chose banale n'a jamais été la recette idéale pour une bonne histoire. Pourtant, j'ai gardé cet épisode dans un coin de ma tête. C'était une tasse sans anse. Environ 1 an plus tard, je déjeunais dans un Applebee's avec ma femme quand j'ai vu un homme d'une 50aine d'années découper le steak haché d'un vieux monsieur. Il faisait ça soigneusement pendant que le vieil homme regardait dans le vide par-dessus sa tête. À un moment donné, le vieillard a semblé retrouver un peu ses esprits et essayer d'attraper ses couverts, sûrement pour pouvoir s'atteler lui-même à son repas. Le plus jeune a souri et secoué la tête. Le vieux monsieur a laissé tomber et recommencé à regarder dans le vide. J'ai décidé qu'ils étaient père et fils. Et voilà, je la tenais, l'anse pour ma tasse d'agressivité au volant. Batman et Robin ont un accrochage. Sanderson voit son père 2 fois par semaine. Le mercredi soir, après avoir fermé la bijouterie que ses parents ont ouverte il y a longtemps, il parcourt les 5 kilomètres jusqu'au manoir de la Franche Rigolade pour rendre visite à Pop, généralement dans la salle commune. Dans sa suite, si Pop est dans un de ses mauvais jours. Presque tous les dimanches midi, Sanderson l'emmène déjeuner en ville. L'établissement dans lequel Pop vit les dernières brumeuses années de sa vie s'appelle en réalité l'unité de soins spécialisée des moissons dorées. Mais Sanderson trouve « Manoir de la Franche Rigolade » plus adapté. Le temps qu'ils passent ensemble n'est pas si pénible que ça finalement, et pas seulement parce que Sanderson n'a plus à changer les draps du vieux quand il pisse au lit, ou à se lever au beau milieu de la nuit quand Pop se met à déambuler dans la maison en appelant sa femme pour qu'elle lui fasse des œufs brouillés, ou en alertant Sanderson que les satanés fils Frédéric sont dans le jardin de derrière en train de boire et de brailler. Dory Sanderson est décédée depuis 15 ans et les 3 fils Frédéric, devenus des hommes, ont déménagé depuis longtemps. Il y a une vieille blague qui dit « La bonne nouvelle, avec Alzheimer, c'est que tu rencontres des gens nouveaux tous les jours. » Sanderson a découvert que la vraie bonne nouvelle, c'est que le scénario change rarement, ce qui veut dire qu'on n'a pratiquement jamais à improviser. Le restaurant Applebee's, par exemple. Bien qu'il déjeune dans le même tous les dimanches midi depuis plus de 3 ans maintenant, Pop répète presque à chaque fois la même chose. « C'est pas si mal ici. Il faudra qu'on revienne. » Il commande toujours un steak haché, à point. Et quand arrive le moment du pudding de pain, il dit à Sanderson que celui de sa femme est meilleur. L'année dernière, le pudding de pain ne figurait pas au menu de l'Applebee's de Commerce Way. Alors Pop, après avoir demandé à Sanderson de lui lire la carte des desserts 4 fois et passé 2 interminables minutes à se décider, avait commandé le crumble aux pommes. Quand le crumble était arrivé, Pop avait fait remarquer que Dory servait le sien avec de la crème fraîche épaisse. Puis il était resté assis là, à regarder la route derrière la vitre. La fois d'après, il avait fait la même remarque, mais mangé tout le crumble et raclé l'assiette. Il se souvient généralement du nom de Sanderson et de leur lien de parenté, mais il arrive qu'il l'appelle Reggie, le nom de son autre fils, mort il y a 40 ans. Lorsque Sanderson se prépare à quitter sa suite, le mercredi ou le dimanche, après avoir ramené son père au manoir dans la franche rigolade, Pop le remercie invariablement en lui promettant que la prochaine fois, il sera en meilleure forme. Dans ses jeunes années, avant de rencontrer Dory Levine qui l'avait civilisé, le futur père de Sanderson était ouvrier dans le pétrole au Texas, et parfois, il lui arrive de redevenir cet homme fruste qui n'aurait jamais imaginé devenir un jour un bijoutier prospère de San Antonio. En de telles occasions, il est confiné dans sa suite. Une fois, il avait renversé son lit et été récompensé de ses efforts par un poignet cassé. Quand l'aide-soignant de service, José, le préféré de Pop, lui avait demandé pourquoi il avait fait ça, Pop avait répondu que c'était parce que ce putain de Gunton voulait pas baisser sa radio. Il n'y a pas de Gunton, évidemment, pas ici. Quelque part dans le passé peut-être, sûrement. Récemment, Pop s'est mis à la kleptomanie. Les aides-soignants, infirmiers et médecins ont trouvé tout un tas de choses dans sa chambre. Des vases, des couverts en plastique du réfectoire, la télécommande de la salle commune. Un jour, José a découvert sous le lit de Pop une boîte à cigares El Producto, remplie de diverses pièces de puzzle et d'une centaine de cartes de jeu désassorties. Pop ne sait dire à personne, y compris son fils, pourquoi il prend ces choses, et il nie généralement les avoir prises. Une fois, il a dit à Sanderson que Gunderson essayait de lui attirer des ennuis. « Tu veux dire Gunton, Pop ?» avait demandé Sanderson. Pop avait agité une main osseuse semblable à du bois flotté. « Ce type a jamais été intéressé que par les gonzesses. C'était le chien en rut de Gonzesville. » Mais la phase kleptomane semble passer. C'est du moins ce que dit José. Et ce dimanche, son père est plutôt calme. Ce n'est pas un de ces jours de grande clarté, mais pas non plus un des plus mauvais. Ça suffit pour l'Applebee's, et s'ils peuvent terminer le repas sans que son père se pisse dessus, ce sera parfait. Il porte des couches pour incontinence, mais il y a quand même l'odeur. C'est pour ça que Sanderson leur prend toujours une table d'angle. Ça ne pose pas de problème. Ils déjeunent à 14 heures, et à cette heure-là, la foule des fidèles sortant de la messe est déjà de retour à la maison à regarder le baseball ou le football américain à la télé. « Mais qui êtes-vous ? » demande Pop dans la voiture. « C'est une belle journée, mais froide. » Avec ses lunettes de soleil surdimensionnées et son pardessus en laine, il ressemble pas mal à l'oncle Junior, le vieux gangster dans Les Sopranos. « Je suis Dougie, » dit Sanderson, « ton fils. »« Je me souviens de Dougie, » dit Pop, « mais il est mort. »« Non, Pop, non. C'est Reggie qui est mort. Il... » Sanderson s'interrompt, attendant de voir si Pop finira sa phrase. Mais non. Il a eu un accident. Sous, n'est-ce pas ? Demande Pop. Ça fait mal, même après toutes ces années. C'est la mauvaise nouvelle, avec ce dont souffre son père. Il est capable de cruautés passagères qui, bien qu'involontaires, peuvent terriblement blesser. Non, dit Sanderson. Ça, c'est le jeune qui l'a renversé, et qui s'en est sorti avec juste quelques égratignures. Le jeune en question doit avoir la cinquantaine à présent et probablement les tempes grisonnantes. Sanderson espère que la version adulte du gamin qui a tué son frère souffre d'une scoliose. Il espère que sa femme est morte d'un cancer des ovaires, qu'il a eu les oreillons et qu'il est devenu aveugle et stérile. Mais il va sûrement très bien. Gérant de supermarché quelque part, peut-être même, Dieu les en garde, d'un Applebee's. Pourquoi pas? Il avait 16 ans. De l'histoire ancienne. Erreur de jeunesse. Dossier certainement scellé. Et Reggie, mis sous scellé lui aussi. Des os dans un costume sous une pierre tombale à Mission Hill. Certains jours, Sanderson n'arrive même pas à se rappeler à quoi il ressemblait. Dougie et moi, on jouait à Batman et Robin, dit Pop. C'était son jeu préféré. Il s'arrête au feu à l'intersection de Commerce Way et de Airline Road, où plus tard les ennuis vont arriver. Sanderson regarde son père et sourit. « Ouais, papa, viens. On s'est même déguisé comme ça pour Halloween une année. Tu te souviens ? J'avais réussi à te convaincre. Le justicier masqué et l'enfant prodige. » Pap regarde à travers le pare-brise de la Subaru de Sanderson. Il ne dit rien. À quoi pense-t-il? Ou bien sa pensée est-elle devenue une onde plate? Sanderson imagine parfois le son que pourrait produire cette onde plate. Comme le bourdonnement de la vieille mire à la télé, bien avant le câble et le satellite. Sanderson pose la main sur la manche de son pardessus et presse affectueusement son bras maigre. « T'étais complètement bourré et maman était folle de rage, mais je me suis bien amusé. Ça a été mon meilleur Halloween. » « Je n'ai jamais bu devant ma femme, » réplique Pap. « Non, » pense Sanderson, alors que le feu passe au vert. « Pas après qu'elle t'en a fait passer l'envie. » « Tu veux de l'aide avec le menu, Pap ?»«
Je sais lire, » lui répond son père.
« Non, il ne sait plus, mais le coin où se trouve leur table est lumineux et il peut toujours regarder les images, même avec ses lunettes de soleil de gangster Uncle Junior sur le nez. De plus, Sanderson sait ce qu'il va commander. » Quand le serveur arrive avec leur thé glacé, Pap dit qu'il prendra le steak haché, à point. « Je le veux rose, mais pas rouge, dit-il. S'il est rouge, je le renvoie. » Le serveur hoche la tête. « Comme d'habitude. » Pop le dévisage d'un œil soupçonneux. « Salade de blé ou salade de choux ?» Pap renacle. « Vous plaisantez. Les gens étaient fauchés comme les blés. On ne vendait même pas de bijoux fantaisie. Je ne vous parle même pas du haut de gamme. » « Il prendra le chou, » dit Sanderson, « et moi je prendrai « fauché comme les blés », » répète Pap avec emphase, et il jette un regard impérieux au serveur sous-entendant « Oserez-vous me contredire ?» Le serveur, qui les a déjà servis plus d'une fois avant, hoche simplement la tête et dit « Fauché comme les blés », avant de se tourner vers Sanderson. « Et pour vous, monsieur ?» Il mange. Pap refuse de retirer son pardessus. Sanderson demande alors un bavoir en plastique et l'attache autour du cou de son père. Pap ne proteste pas, ne s'en rend peut-être même pas compte. Un peu de sa salade de choux atterrit sur son pantalon, mais le bavoir rattrape la plupart des gouttes de sauce aux champignons. Alors qu'ils sont en train de terminer leur plat, Pap informe la salle presque vide qu'il a tellement envie de pisser qu'il va exploser. Sanderson l'accompagne aux toilettes pour hommes. Son père le laisse défaire sa braguette, mais quand Sanderson entreprend de baisser l'élastique de sa couche, Pap lui donne une tape sur la main. « Ne t'occupe jamais de l'arrosoir d'un autre homme, mon garçon, » dit-il contrarié. « On t'a donc pas appris ça ?» Ça réveille un vieux souvenir. Dougie Sanderson debout devant les toilettes, son short sur les chevilles et son père à genoux à côté de lui, lui exposant la marche à suivre. Quel âge avait-il alors ? 3 ans ? 2 ans seulement ? Oui, peut-être 2 seulement. Mais le souvenir est limpide, comme un brillant éclat de verre au bord de la route, si parfaitement positionné qu'il laisse une image résiduelle sur la rétine. Dégaine, vise, et quand t'es prêt, tu tires, dit Sanderson. Pop lui jette un regard soupçonneux, puis lui fend le cœur d'un sourire. C'est ce que je disais à mes garçons quand je leur apprenais à faire pipi tout seul, dit-il. Dory disait que c'était mon boulot, et Dieu sait que je l'ai fait. Il déverse un torrent, dont la majeure partie atterrit miraculeusement dans l'urinoir. L'odeur est aigre et sucrée, le diabète, mais quelle importance. Sanderson pense parfois que le plus tôt sera le mieux. De retour à leur table, le bavoir toujours autour du cou, Pap rend son verdict. « C'est pas si mal ici. Il faudra qu'on revienne. » « Un petit dessert, Pap ?» Pap réfléchit à la proposition, le regard perdu au dehors, la bouche ouverte. « Ou bien est-ce juste l'onde plate ?»« Non, pas cette fois. »«
Pourquoi pas ? J'ai encore de la place. »
Il commande le crumble aux pommes. Pap considère la boule de glace à la vanille posée dessus. Ses sourcils froncés se rejoignant en broussailles au milieu.
Ma femme le servait avec de la crème fraîche épaisse. Elle s'appelait Dory, le diminutif de Doreen, comme dans le Mickey Mouse Club. Miska, Mosca, Mickey Mouse.
Je sais, Pap. Mange.
Tu es Dougie?
Ouais.
Vraiment? Tu me fais pas marcher?
Non, papa, c'est moi, Dougie. Son père approche de sa bouche une cuillère dégoulinante de glace et de pommes.
On l'a vraiment fait, n'est-ce pas?
Fait quoi?
Halloween, déguisé en Batman et Robin.
Sanderson rigole, surpris.
Un peu qu'on l'a fait. Maman disait que j'étais né idiot, mais que toi, tu n'avais aucune excuse. Et Reggie voulait pas s'approcher de nous. Ça l'écœurait.
J'étais saoul, dit Pap, puis il commence à manger son dessert. The crumble terminé, il rote, montre du doigt la fenêtre et dit « Regarde ces oiseaux là-bas. » C'est quoi déjà? Sanderson regarde. Les oiseaux sont agglutinés sur une benne à ordures sur le parking. Il y en a d'autres sur la clôture juste derrière.
Ce sont des corbeaux, Pimp.
Seigneur, je suis au courant, dit Pimp. Les corbeaux n'étaient pas un problème à l'époque. On avait un pistolet à billes.
Bien, écoute-moi maintenant.
Il se penche vers lui, l'air sérieux.
Sommes-nous déjà venus ici?
Sanderson réfléchit aux possibles considérations d'ordre métaphysique inhérentes à la question, puis dit
« Oui, on vient ici presque tous les dimanches. »
« Eh bien, ma foi, ce n'est pas trop mal. Mais je crois que nous devrions rentrer. Je suis fatigué. Je veux faire une machin chose là. »«
Une sieste ?»«
Une machin chose là, » répète Pop en lui décochant ce regard impérieux. Sanderson fait signe pour l'addition. Pendant qu'il est en train de payer au comptoir, Pop s'en va, les mains dans les poches de son pardessus. Sanderson récupère sa monnaie en vitesse et doit courir pour rattraper Pop à la porte avant qu'il ne parte en vadrouille sur le parking, ou carrément sur la quatre voies encombrée de Commerce Way.
C'était une bonne soirée, dit Pop, alors que Sanderson lui attache sa ceinture.
Quelle soirée?
Halloween, andouille. Tu avais 8 ans. C'était donc en 1959. Tu es né en 51.
Sanderson regarde son père, ahuri, mais le vieil homme fixe la circulation droit devant lui. Sanderson ferme la portière côté passager, contourne le capot de sa Subaru, s'installe au volant. Ils ne disent plus rien sur 2 ou 3 blocs, et Sanderson présume que son père a déjà tout oublié. Mais non.
Quand on est arrivé chez les Forrester, en haut de la côte, tu te souviens de la côte, n'est-ce pas?
Church Street Hill, bien sûr.
C'est ça. Norma Forrester a ouvert la porte, et à toi, elle t'a dit, avant que tu le dises, elle t'a dit, farce ou bonbon?
Et puis elle s'est tournée vers moi et m'a dit, farce ou boisson?
Pop émet un son de gond rouillé que Sanderson n'a pas entendu depuis 1 an, voire plus. Il se tape même la cuisse.
Farce ou boisson? Quel comique! Tu t'en souviens, n'est-ce pas?
Sanderson essaie, en vain. Tout ce dont il se souvient, c'est à quel point il était heureux d'avoir son père avec lui, même si le costume de Batman du dit père, confectionné à la va-vite, était plutôt nul. Un pyjama gris avec l'emblème de la chauve-souris dessiné au feutre sur le devant. La cape découpée dans un vieux drap. La ceinture utilitaire de Batman était une ceinture en cuir dans laquelle son père avait coincé un assortiment de tournevis et de burins. Il y avait même une clé à molette, prise dans la caisse à outils du garage. Le masque était une cagoule mangée au mythe que Pop avait remonté sur son nez de manière à ce que l'on voit sa bouche. Avant de partir, debout devant le miroir du couloir, il avait tiré sur les 2 côtés du sommet de la cagoule, les modelant pour en faire des oreilles. Mais ça n'avait pas tenu.
« Elle m'a proposé une bouteille de Shiner, » dit Pop.
Ils ont remonté Commerce Way sur 9 blocs à présent et ils approchent de l'intersection avec Airline Road.
« Et t'as accepté ?»
Pop est lancé. Sanderson adorerait qu'il continue comme ça jusqu'au manoir de la Franche Rigolade.
« Bien entendu !»
Il reste silencieux. Alors que l'intersection se rapproche, les 2 voies de Commerce Way se séparent en 3 voies. La plus à gauche est celle pour tourner. Le feu pour continuer tout droit est au rouge, mais la voie de gauche est surmontée d'une flèche verte.
« Cette gonzesse avait les nichons comme des oreillers. C'est le meilleur coup que j'ai jamais eu. »
« Oui, ça blesse. » Sanderson le sait d'expérience, mais aussi parce qu'il discute avec les autres visiteurs qui ont de la famille au manoir. La plupart du temps, ce n'est pas volontaire, mais c'est douloureux quand même. Le peu de souvenirs qu'il leur reste est en pagaille, comme les pièces de puzzle volées que José a trouvées dans la boîte à cigares sous le lit de Pop. Et il n'y a personne pour les réorganiser, aucun moyen de séparer les souvenirs dont il fait bon parler de ceux qu'il faut mieux taire. Sanderson n'a jamais eu la moindre raison de croire que son père a été autre chose que fidèle à sa femme pendant leurs 40 et quelques années de mariage. Mais n'est-ce pas là une supposition que font tous les enfants devenus adultes, surtout si leurs parents ont formé un couple paisible et convivial? Il quitte la route des yeux pour regarder son père, et c'est la raison pour laquelle survient un accident au lieu d'un de ces presque accidents comme il en arrive toujours sur les artères encombrées de type Commerce Way. Néanmoins, ce n'est pas un accident très grave, et même si Sanderson sait qu'il a relâché son attention pendant 1 seconde ou 2, il sait aussi qu'il n'est pas en tort. Un de ses pick-up rehaussés avec roues surdimensionnées et rangées de phares sur le toit de la cabine se rabat sur sa voie pour essayer de rejoindre celle de gauche avant que la flèche ne passe au rouge. Il n'a pas de clignotant arrière,
Ça, Sanderson le remarque juste au moment où l'avant gauche de son capot entre en collision avec l'arrière du pick-up. Lui et son père sont projetés vers l'avant, retenus par leurs ceintures bouclées, et une crête se soulève brusquement au milieu du capot, auparavant intact de sa Subaru. Mais les airbags ne se déclenchent pas. On entend un tintement de verre brisé.
« Connard !» hurle Sanderson. « Nom de Dieu !»
Puis il commet une erreur. Il appuie sur le bouton qui abaisse sa vitre, sort son bras et brandit son majeur en direction du pick-up. Plus tard, il se dira qu'il l'a fait uniquement parce que Pap était dans la voiture avec lui et parce que Pap était lancé.
Pap, Sanderson se tourne vers lui.
« Ça va ?»«
Qu'est-ce qui s'est passé ?» demande Pap. « Pourquoi on s'est arrêté ?»
Il est désorienté, mais il va bien. Une chance qu'il ait eu sa ceinture, même si Dieu sait qu'il est difficile de l'oublier de nos jours.
Les voitures te l'interdisent. Roule 15 mètres en ayant oublié de la boucler, et elles se mettent à hurler d'indignation.
Sanderson se penche par-dessus Pap, ouvre la boîte à gants d'une pression du pouce et sort la carte grise et l'assurance de son véhicule. Quand il se redresse, la portière du pick-up est grande ouverte et le conducteur est en train de marcher vers lui, ne prêtant aucune attention aux voitures qui klaxonnent et font des embardées pour contourner le tout récent accrochage. Il n'y a pas autant de circulation qu'en semaine, mais Sanderson ne considère pas ça comme une bénédiction parce qu'il est en train de regarder le conducteur qui approche et pense « Je risque d'avoir des ennuis ». Il connaît ce type, pas personnellement, mais c'est le Texan du Sud de base. Il est en jean et porte un t-shirt aux manches arrachées aux épaules. Pas coupé, arraché, de telle sorte que des franges effilochées pendouillent sur les blocs de muscles de ses biceps bronzés. Son jean tombe sur ses hanches, exhibant ainsi la marque de son caleçon. Une chaîne, accrochée à un passant de ceinture, rejoint sa poche arrière, où se trouve sans aucun doute un gros portefeuille en cuir, peut-être bien estampillé du logo d'un groupe de heavy metal. Beaucoup d'encre sur les bras et les mains, et qui lui remonte même dans le cou. Quand Sanderson voit ce genre de type sur le trottoir devant sa bijouterie via les caméras de sécurité, il appuie sur le bouton qui verrouille la porte. Là, tout de suite, il aimerait appuyer sur le bouton pour verrouiller la portière de sa voiture. Mais bien sûr, il ne peut pas faire ça. Il n'aurait jamais dû faire un doigt d'honneur à ce type, et il aurait eu le temps d'y réfléchir à deux fois, puisqu'il a dû baisser sa vitre pour le faire. Mais c'est trop tard maintenant. Sanderson ouvre sa portière et descend de voiture prête à calmer le jeu, à s'excuser pour quelque chose dont il n'a pas à s'excuser. C'est ce type qui lui a coupé la route, pour l'amour du ciel. Mais voilà autre chose, quelque chose qui lui hérisse la peau des bras et de la nuque, dégoulinant de sueur maintenant qu'il est sorti de la voiture climatisée, de petits piquants de désarroi. Les tatouages du type sont grossiers et brouillons. Des chaînes autour des biceps, des épines encerclant ses avant-bras, un poignard sur le poignet avec une goutte de sang perlant au bout de la lame. C'est pas des tatouages de studio, ça. C'est des tatouages de prison. Le tatoué doit faire au moins 1m90 dans ses bottes et peser dans les 90 kilos. Sanderson mesure 1m80 et pèse 72 kilos.
« Écoutez, je suis désolé de vous avoir fait un doigt d'honneur, » dit Sanderson. « J'ai pas réfléchi, c'est sorti tout seul. Mais vous avez changé de voix. Regarde ce que t'as fait à ma caisse, » dit le tatoué. « Ça fait pas 3 mois que je l'ai. Il faut qu'on échange nos assurances. »
Il leur fait aussi un flic. Sanderson regarde autour de lui, mais ne voit que des badauds ralentissant pour évaluer les dégâts, puis réaccélérant.
« Je peux à peine rembourser le crédit de cette chaîne de bagnole. Tu crois vraiment que j'ai une assurance ?»«
T'es obligé d'avoir une assurance, » pense Sanderson. « C'est la loi. » Sauf qu'un type comme lui se croit obligé de rien. Les testicules en caoutchouc qui pendent sous sa plaque d'immatriculation en sont la preuve ultime.
« Putain, pourquoi tu m'as pas laissé passer, connard ?»
« Il n'y avait pas le temps, » dit Sanderson. « Vous m'avez coupé la route. Vous avez pas mis votre clignotant. »«
J'ai mis mon clignot. »«
Alors, pourquoi il n'y est pas, là ?» lui fait remarquer Sanderson.
« Parce que t'as niqué mon putain de feu arrière, crétin. Qu'est-ce que je vais dire à ma copine, moi ? C'est elle qui a avancé la compte, bordel. Et vire-moi cette merde sous mon nez. »
Il balance un coup dans l'assurance et la carte grise que Sanderson lui tend toujours. Sanderson regarde par terre, sidéré. Ses papiers sont éparpillés sur la chaussée.
« J'y vais !» dit le tatoué. « Je m'occupe de réparer ma bagnole. Tu t'occupes de réparer la tienne. C'est comme ça que ça va se passer. »
Les dégâts sur la Subaru sont bien pires que ceux du pick-up, absurdement surdimensionnés. Une différence de probablement 1 500 ou $2 000. Mais ce n'est pas ce qui pousse Sanderson à répliquer. Ce n'est pas le risque que l'abruti s'en sorte en toute impunité non plus. Tout ce que Sanderson a à faire, c'est de noter le numéro de la plaque au-dessus des testicules qui pendouillent. Ce n'est même pas la chaleur qui est accablante. Non, c'est la pensée de son père, assis là, shooté au médoc sur le siège du passager, n'ayant aucune idée de ce qui se passe et ayant besoin d'une sieste. Il devrait être à mi-chemin du manoir de la Franche Rigolade à l'heure qu'il est. Mais non, non, parce que ce trou du cul qui se prend pour le roi de la route s'est cru obligé de me faire une queue de poisson, pour se dépêcher de passer avant que la flèche passe au rouge, sans quoi le monde s'obscurcirait et les vents du jugement dernier s'abattraient sur lui. « Non, c'est pas comme ça que ça va se passer, » dit Sanderson. « Vous êtes en tort, vous m'avez coupé la route sans mettre votre clignot. J'ai pas eu le temps de m'arrêter, je veux voir votre carte grise et votre permis de conduire. » « Nique ta mère !» dit le gros costaud, et il balance un coup de poing dans l'estomac de Sanderson. Sanderson se plie en deux, expulsant d'un seul coup tout l'air de ses poumons. Il aurait dû se douter que provoquer le conducteur du pick-up n'était pas une bonne idée. Il s'en était douté d'ailleurs. Un seul coup d'œil à ses tatouages d'amateur, et n'importe qui s'en serait douté. Mais il l'avait quand même ramené parce qu'il n'imaginait pas s'en prendre une en plein jour au beau milieu de Commerce Way et d'Airline Road. Il est membre des JCs. Il n'a pas reçu de coup de poing depuis le cours élémentaire 2 quand il s'était bagarré pour des cartes de baseball. « La voilà, ma carte grise !» dit le tatoué. De grosses coulées de sueur dégoulinent de ses tempes et le long de ses joues. « J'espère qu'elle te plaît. Quant à mon permis de conduire, j'en ai pas, ok ? J'en ai pas ! Je suis dans la merde, putain, et tout ça c'est de ta faute, enculé, parce que t'étais en train de te branler au lieu de regarder où t'allais, putain de trou du cul !» C'est là que le tatoué pète complètement les plombs. Peut-être que c'est l'accident, peut-être que c'est la chaleur, peut-être que c'est l'obstination de Sanderson à vouloir voir des papiers qu'il n'a pas. Il se peut même que ce soit le son de sa propre voix. Sanderson a entendu plein de fois la formule, il a pété les plombs, mais il réalise qu'il n'en avait jamais pleinement saisi le sens. Le tatoué est son professeur, et c'est un bon professeur. Il noue ses deux mains, formant ainsi un point double. Sanderson a juste le temps de voir deux yeux bleus sur les phalanges du tatoué avant de recevoir un coup de masse sur le côté du visage qui le propulse contre le flanc droit, fraîchement esquinté de sa voiture. Il glisse contre la carrosserie, une dent de métal déchire sa chemise et la peau en dessous. Du sang coule le long de ses côtes, chaud comme la fièvre. Puis ses genoux se dérobent et il atterrit sur la chaussée. Il regarde fixement ses mains, n'arrivant pas à croire que ce sont ses mains. Sa joue droite chauffe et semble lever comme de la pâte à pain. Son œil gauche pleure. Puis arrive le coup de pied dans ses côtes blessées, juste au-dessus de la ceinture. La tête de Sanderson heurte l'enjoliveur avant-droit de sa Subaru et rebondit. Il essaie de ramper hors de l'ombre du tatoué. Le tatoué lui hurle dessus, mais Sanderson n'arrive à décrypter aucun mot. Ça fait juste « ouah, ouah, ouah » le bruit que font les adultes quand ils parlent aux enfants dans les dessins animés de Snoopy. Il a envie de dire au tatoué « Ok, ok, y a pas de lézard, on lâche l'affaire ». Il a envie de dire « C'est bon, y a pas mort d'homme », même s'il a l'impression que ça pourrait bien arriver. « Reprends ton chemin, je reprends le mien. Bon vent, et à demain, les Mouseketeers !» Sauf qu'il n'arrive pas à reprendre son souffle. Il pense qu'il va faire une crise cardiaque, peut-être qu'il est déjà en train d'en faire une. Il a envie de lever la tête. S'il doit mourir, il aimerait autant le faire en regardant quelque chose de plus intéressant que la surface de Commerce Way et l'avant de sa propre voiture meurtrie, mais il semble en être incapable. Son cou est aussi flasque qu'un spaghetti. Il reçoit un autre coup de pied dans la partie charnue de sa cuisse gauche cette fois. Puis le tatoué pousse un cri guttural et des gouttes rouges commencent à éclabousser le béton composite de la chaussée. Sanderson pense d'abord que c'est son nez ou peut-être ses lèvres à cause du coup de masse qu'il a reçu. Puis un jet de chaleur asperge sa nuque. C'est comme une averse tropicale. Il rampe un peu plus loin, contourne le capot de sa voiture, puis réussit à se retourner et à s'asseoir. Il regarde en l'air, plissant les yeux comme la luminosité aveuglante du ciel, et voit Pop debout à côté du tatoué. Le tatoué est plié en deux comme quelqu'un souffrant de sévères crampes d'estomac. Il est aussi en train de tâtonner, cherchant à attraper le côté de son cou dans lequel a poussé un morceau de bois. D'abord, Sanderson ne comprend pas. Puis il se rend compte que le morceau de bois est le manche d'un couteau qu'il a déjà vu avant, qu'il voit presque toutes les semaines. Pas besoin de couteau à steak pour couper la viande hachée que Pape commande à chacun de leurs déjeuners dominicaux. Une fourchette suffit amplement, mais on vous en apporte quand même un.
Ça fait partie du service. Pop ne se rappelle peut-être plus quel fils lui rend visite ou que sa femme est morte. Il ne se souvient probablement plus de son deuxième prénom. Mais il semblerait qu'il n'ait pas perdu toute l'ingénieuse férocité qui lui a permis de s'élever de la condition de rustre sans instruction dans les champs de pétrole du Texas à celle de bijoutier de la petite bourgeoisie de San Antonio. « Il m'a fait me retourner pour regarder les oiseaux, » pense Sanderson. « Les corbeaux sur la benne à ordures. C'est là qu'il a pris le couteau. » Le tatoué a perdu tout intérêt pour l'homme assis sur la chaussée et il ne jette pas un seul regard au vieux monsieur debout à côté de lui. Il s'est mis à tousser. À chaque expectoration, une fine pulvérisation de sang sort de sa bouche. Il a une main sur le couteau planté dans son cou qu'il essaie d'extraire. Du sang coule sur le côté de son t-shirt et éclabousse son jean. Il commence à marcher vers l'intersection de Commerce Way et d'Airline, où toute circulation a cessé, toussant toujours, plié en deux. Il agite sa main libre en un petit geste désinvolte. « Salut-moi !» Sanderson se lève. Ses jambes tremblent, mais il tient debout. Il entend des sirènes approcher. Bien sûr, c'est maintenant que les flics arrivent, maintenant que tout est terminé. Sanderson passe un bras autour des épaules de son père. « Ça va, papa ?»« Cet homme était en train de te rouer de coups, » dit Pop, d'un ton pragmatique. « Qui est-il ? » »« Je l'ignore. » Des larmes coulent le long des joues de Sanderson. Il les essuie de la main. Le tatoué tombe à genoux. Il a arrêté de tousser. Il émet à présent un grognement sourd. La plupart des gens restent en retrait, mais quelques âmes courageuses s'approchent de lui, voulant lui porter secours. Sanderson pense que le tatoué n'en a probablement plus besoin, mais ils peuvent toujours essayer. « On a déjà mangé, Reggie ?»« Oui, Pop, on a déjà mangé. Mais moi, c'est Dougie. »« Reggie est mort, hein, c'est pas ce que tu m'as dit ?»« Oui, Pop. » »« Cet homme était en train de te rouer de coups. » Le visage de son père grimace, prenant les traits d'un enfant horriblement fatigué qui a besoin d'aller se coucher. « J'ai mal à la tête. Foutons le camp d'ici, j'ai besoin de m'allonger. » « Il faut qu'on attende la police. »« Pourquoi ? Quelle police ? Qui est ce type ?» Sanderson sent une odeur de merde. Son père s'est chié dessus. « Allons dans la voiture, papa. » Son père se laisse conduire autour du capot froissé de la Subaru et dit « C'était un sacré Halloween, pas vrai ?»« Oui, papa, c'est vrai. » Sanderson aide le justicier masqué de 83 ans à monter dans la voiture et referme la portière pour garder la fraîcheur à l'intérieur. La première voiture de police est là. Ils vont vouloir voir ses papiers. L'enfant prodige de 61 ans, les mains pressées contre son flanc douloureux, se traîne côté conducteur pour les ramasser sur la chaussée. Pour John Irving.